Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Pascal Masrika Bissimo.
À la une de l'actualité, la chef de la MONUSCO est arrivée ce matin à Uvira au sud Kivu. C'est la première étape d'une tournée qui conduira Madame Bintou Keïta dans les provinces de l'Est de la RDC. 19 rebelles ougandais de l'ADF neutralisés, 20 autres capturés et leurs armes récupérées par les FARDC. Bilan des opérations menées cette semaine sur le tronçon Commandant Mambasa Luna au sud du territoire du Rumu en Ituri. Notre invité, c'est le chef de programme de l'ONG Paul Institute. Sharma Wandambi affirme que le manque de communication est à la base d'une mauvaise cohabitation entre la population et les FARDC dans les zones opérationnelles à l'est du pays. Madame, messieurs, bonsoir. Avant d'aller plus loin, sachez que le président Félix Tshisekedi Tshilombo et la première dame Denise Nyakeru sont arrivés cet après-midi à Bujumbura. À l'aéroport Melchior Ndadaye, ils ont été accueillis par le ministre burundais des Affaires étrangères. Pendant son séjour de 3 jours, le chef de l'État congolais va échanger avec son homologue Evariste Ndayishimiye avant de visiter la frontière de Gatumba. La chef de la MONUSCO est arrivée ce samedi à Uvira, au sud Kivu, première étape d'une tournée qui la conduira dans les provinces de l'Est de la RDC. Madame Bintou Keïta, qui vient de Bujumbura, a échangé avec l'administrateur du territoire d'Uvira autour du plaidoyer sur les forces de sécurité. Le compte-rendu de Fiston Ngoma Mayabala.
L'administratrice du territoire d'Uvira, Julie Malenga Sango, a insisté sur la problématique de la cartographie des groupes armés, de la catégorisation et la classification de ces groupes qui opposent encore les acteurs locaux, notamment en relation avec les processus en cours de Nairobi, où certains groupes armés souhaitent se rendre dans le processus national qui sera décliné au niveau provincial avec le PDDRCS. Le maire de la ville d'Uvira, Kiza Mwato, de son côté, a plaidé pour l'augmentation des effectifs des policiers et l'amélioration de leurs conditions de travail et de leur logement. Kiza Mwato.
Il nous a promis qu'il pourra aussi faire des plaidoyers au niveau national et ils sont dans les problèmes de la sécurité et par rapport à notre pays.
La patronne de la MONUSCO Bintou Keïta a abordé la nécessité de travailler sur les aspects de rapatriement des groupes armés étrangers. Le contexte s'y est prêté pour une conversation beaucoup plus approfondie ce week-end où le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi est attendu à Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Voisin Bintou Keïta.
Ça montre qu'il y a des choses qui bougent pour essayer de trouver des solutions aux problèmes difficiles créés par les activités des groupes armés, y compris des conflits intercommunautaires sur les déplacements de population, sur leurs conditions humanitaires.
La tournée de Bintou Keïta vient de démarrer avec Uvira et se poursuivra à Bukavu. D'Uvira, Fiston Ngoma Mayabala, Radio Kapi.
Dialoguer et déposer les armes pour mettre ainsi fin au cycle des violences. Exhortation faite ce samedi après-midi par l'ambassadeur du Kenya en RDC à l'issue d'une consultation entre les représentants des groupes armés de Beni au Nord Kivu, les leaders nandais et la délégation de la présidence. Georges Massafou s'est confié à Marc Marofimo.
Nous sommes venus ici à Beni comme des amis du pays Kenya RDC. Mais il y a un problème. Il y a beaucoup de conflits armés ici, beaucoup de violences enregistrées dans la région. Mais nous sommes là pour vous écouter et vous voir parler comme des frères afin de mettre fin à ce cycle de violences. C'est vital que le gouvernement et les groupes de la population se retrouvent autour d'une même table pour un dialogue franc, que les groupes armés déposent les armes et qu'on finisse avec les conflits armés dans la région. Nous voulons vous voir dans la communauté des pays de l'Est, mais avec le bagage de la paix. Vous pouvez venir même à Nairobi comme vous voulez, mais pas avec ces violences qui sont ici. Raison pour laquelle vous êtes priés de dialoguer et de terminer tous ces conflits ici.
En Ituri, pendant 7 ans, les communautés dont certains membres ont pris les armes s'engagent à sensibiliser leurs fils égarés à se rendre. Engagement pris vendredi après-midi lors d'une rencontre avec la délégation conjointe présidence de la République démocratique du Congo et l'ambassade du Kenya. Ces communautés locales nient cependant leur responsabilité dans la création des milices. D'autres communautés locales qui se disent victimes des atrocités demandent au gouvernement congolais d'user de la force pour imposer la paix. À Bounia, Isaac Remoyope.
11 communautés ont été représentées à ces assises. Les leaders communautaires Bira et Lendo ont réitéré leur collaboration avec le gouvernement pour la recherche de la paix en Ituri en sensibilisant les miliciens de la FPIC et de la CODECO, mais sous réserve que l'approche soit globale pour l'action de toutes les milices actives en Ituri. Nobira Bodiedone, président de la communauté Zunana.
La communauté n'est pas à confondre avec les groupes armés, mais comme dans les groupes armés, par exemple FPIC, il y a des sujets Bira, là nous avons l'obligation de les approcher, de leur parler et de chercher à les persuader.
Pour la communauté Hema, il n'est pas question de sensibiliser les groupes armés. Seul l'usage des forces peut contraindre ces milices à déposer les armes. John Bessis a son deuxième vice-président.
Que les gens qui ont fabriqué les Zaïre, que eux aillent sensibiliser. Mais ça, ce n'est pas notre affaire. Nous attendons les frappes des grandes envergures.
D'autres communautés qui se disent victimes des atrocités des groupes armés affirment que toutes les initiatives du gouvernement pour construire la paix n'inspirent plus confiance car elles se sont toutes soldées par des échecs. Vital Tungulo de la communauté Banyarikilo.
Ça fait déjà plusieurs fois que les chefs de l'État aillent attendre la main aux groupes armés, mais les groupes armés continuent à tuer la population. Nous allons accepter quand nous allons voir l'effectivité.
Pour sa part, le chef de la délégation a rassuré ses hôtes que le chef de l'État est déterminé à restaurer la paix à l'est de la RDC. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et puis 19 rebelles ougandais de l'EDF neutralisés, 20 autres capturés et leurs armes récupérées par les FARDC. Bilan des opérations menées cette semaine sur le tronçon Commanda Mambasaluna au sud du territoire du Rumu en Ituri. Selon des sources sécuritaires locales, 67 civils qui étaient pris en otage ont été libérés. La correspondance d'Ezekiel Mouzalia.
C'est à partir du pont Ituri, dépassant Komanda jusque dans les villages Bawanza et Kundala Kundala dans le territoire de Mambasa que s'est déroulée la première phase de ces opérations et la deuxième sur les tronçons Komanda Luna jusqu'à Manzobe, communément appelé Trois Antennes. Au moins 12 localités dont Bawanza, Bakwanza, Bavonkutu, Tolitoli et Sessa, considérées comme bastions de l'ennemi, sont passées sous les contrôles des FARDC. Au cours de ces combats, 67 otages ont été libérés, 21 rebelles capturés ainsi que leurs armes récupérées. Témoignage de ses parents dont les enfants ont fait 2 semaines entre les mains de ces rebelles.
Je suis content de retrouver mes enfants. Ils étaient pris en otage pendant 21 jours. Je remercie beaucoup les militaires des FARDC. Que Dieu leur augmente la force, qu'ils continuent ainsi.
De son côté, l'armée rassure sa ferme détermination à combattre l'ennemi et rétablir l'autorité de l'État sur ses axes routiers. Son porte-parole, le lieutenant Jules Ngongo.
Nous sollicitons au nom du gouverneur militaire l'accompagnement de notre population. Dénoncer tout le malfrat et n'apporter aucun soutien à ces terroristes.
Signalons qu'au moins 30 véhicules sont déjà incendiés sur l'axe Commanda Mambasa et d'autres sur Commanda Luna. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Justice à présent. Au Nord Kivu, l'ONG Colibri RDC Asbel dénonce la non-tenue des audiences au tribunal des grandes instances et au tribunal de paix de Butembo. Le coordonnateur de cette ONG de défense des droits de l'homme redoute la surpopulation carcérale à la prison de Kakwangura où il y a aujourd'hui plus de 800 détenus au lieu de 300 de sa capacité d'accueil. Richard Kasereka le dit à Grace Amzati.
Même si on se trouve dans une situation d'état de siège, le président de la République a déjà émis une ordonnance en mars dernier autorisant ces juridictions à reprendre leurs activités pénales sauf pour certaines infractions. Malheureusement, brusquement, les parties sont arrivées vendredi passé au tripé et ont constaté qu'il n'y avait pas audience. La chambre de conseil devrait avoir lieu mardi passé. Le tribunal de paix ne s'est pas rendu à la prison pour régulariser la détention. Pareil pour le TGI mercredi ainsi que jeudi. Donc on se rend compte que les juges n'ont pas l'intention de siéger et on ne fournit aucune explication et entre-temps des personnes sont en détention dans une situation irrégulière et cela est très inquiétant, ça constitue une terrible violation de leurs droits. On ne peut pas continuer à mettre les gens en prison alors qu'on n'a pas les moyens de les prendre en charge. Le problème, il est là. Il y a eu 3 morts la semaine passée pour cause de manque de nourriture. Et malgré ces conditions, les juges refusent de se présenter au tribunal pour régulariser la situation des gens parce que c'est à cette occasion aussi qu'ils peuvent décider d'en libérer quelques-uns. On est arrivé au TGI comme au tripé. Il n'y a aucune affiche qui justifie pourquoi il y a une non-tenue des audiences. Il n'y a aucune communication, en tout cas officielle.
J'ajoute que le procureur de la République près le tribunal des grandes instances de Butembo a promis de réagir dès que possible. Autre nouvelle sur Radio Okapi ce soir, la marche des santé organisée ce samedi à Kinshasa par le professeur Adolphe Voto à l'occasion du centenaire du caporal Albert Kunyuku Ngoma, ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale, a fait beaucoup d'émotions. Le caporal a fondu en larmes au vu de la foule qui s'est empressée spontanément à l'événement. Un reportage d'Aubin Abedi Djouma.
De larmes et des joies ont coulé sur les joues d'Albert Kunyuku Ngoma. Habitué à un cercle restreint, l'ancien combattant centenaire a été honoré par la présence du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Gilbert Kabanda, accompagné de près d'une centaine de personnes venues marcher à ses côtés. C'est avec joie qu'Albert Kunyuku a exprimé sa gratitude envers tous les participants. Le professeur Adolphe Voto, qui s'est dit satisfait de la réussite de l'activité, justifie l'émotion du caporal Kunyuku.
C'est tout à fait normal, il a passé un moment difficile, il a été malade, il a connu la privation, la famine, l'abandon, il a été délaissé, il a été ignoré, et que cela était vrai à cet âge-là, il ne croyait pas. Donc je pense que c'est l'émotion qu'il a prise. Je crois qu'il vaut mieux tard que jamais, au moins à la fin de sa vie, qu'il soit reconnu par la nation.
Rappelons qu'Albert Kunyuku est le seul ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale encore vivant en République démocratique du Congo.
Revenons au Nord Kivu où l'espace Virunga de Beni abrite à partir de ce samedi une exposition artistique dénommée Les Forêts du Kivu. Des tableaux de l'artiste Gershom Ndebo seront exposés à l'occasion afin de faire découvrir les forêts du Kivu. Des précisions avec le chargé de communication de la Fondation Virunga, Merdi Baraka, a été joint par Grévis Salumou.
C'est une exposition en images en fait, une exposition des tableaux de plusieurs forêts du Nord Kivu qui seront exposées à l'espace Virunga à partir du 21 jusqu'au 4 juin. Une exposition qui a pour but d'éduquer la communauté et de leur faire découvrir différentes forêts du Kivu ainsi que le mode de vie des gens qui sont autour. Alors c'est une exposition qui est ouverte à tout le monde de 9h jusqu'à 18h. La participation elle est vraiment gratuite. Nous appelons tout le monde qui a du temps de s'y rendre pour découvrir cette exposition qui sera vraiment bénéfique d'une manière culturelle. Nous espérons que la communauté qui entrera et qui découvrira aura un ajout.
L'actualité, c'est aussi la commémoration aujourd'hui de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour les dialogues et le développement. Ici à Kinshasa, l'artiste et homme politique membre de la Mouka, Alexis Tendé, dit Lexus Légal, les suggère aux autorités de la RDC d'initier le dialogue interculturel pour mettre un terme aux conflits armés dans l'est du pays. Il a dit dans une conférence de presse au micro de Paul Matendo.
Nous avons une guerre à l'Est qui nous est imposée à peu près depuis 2 décennies où sont les options militaires qui ont toujours été favorisées pour plusieurs raisons que nous comprenons. Mais aujourd'hui, avec l'état de siège, nous pensons qu'il est temps que l'on intègre, que l'on puisse joindre aux options militaires les différentes options que la culture offre pour résoudre, en tout cas contribuer à la résolution de ces genres de conflits, le dialogue interculturel par exemple avec le pays, les peuples des pays, des États que nous considérons comme proxy serait intéressante et nous pensons que cela peut faire avancer la solution finale à ces conflits. Mais malheureusement, nous constatons aussi comme encore une preuve, les vivre ensemble qui est mis en mal, qui est bien entamé.
Actualité internationale.
Après 2 semaines de négociations intenses, il n'y a pas eu d'avancée majeure dans la protection des terres contre la désertification, la sécheresse et l'appauvrissement des sols. La COP 15 sur la désertification s'est terminée hier vendredi après-midi à Abidjan, Côte d'Ivoire. 196 pays étaient réunis autour d'une même table pour tenter de s'accorder sur des objectifs communs en la matière. Le président américain et son homologue sud-coréen ont annoncé ce samedi leur volonté de renforcer davantage leurs exercices militaires conjoints pour faire face à la menace de la Corée du Nord. Joe Biden et Jungkook ont convenu aujourd'hui d'entamer au plus vite des discussions en vue d'élargir la portée et l'ampleur des exercices et des entraînements militaires conjoints dans et aux alentours de la péninsule coréenne, selon un communiqué conjoint qui a été publié aujourd'hui à l'issue du sommet tenu à Séoul.
L'invité.
Notre invité, c'est le chef de programme de l'ONG Paul Institute, Maître Sherman Wandibi, affirme que le manque de communication est à la base d'une mauvaise cohabitation entre la population et les militaires dans les zones opérationnelles à l'est de la RDC. Il s'entretient avec Marc Marofimbo.
Maître Sherman Wandibi, bonjour.
Bonjour, merci monsieur le journaliste.
La problématique des communications dans la région opérationnelle comme celle de Beni, ce fut le sujet d'une journée de réflexion tenue par Paul Institute. Tout d'abord, comprenons pourquoi avoir choisi cette thématique. Qu'est-ce qui a été constaté par vous, Paul Institute, afin d'organiser cette activité?
Nous avons tenu en fait d'organiser cette activité parce que le projet Dialogue démocratique pour la paix à Beni que nous sommes en train d'implémenter, c'est un projet qui est basé essentiellement sur la stratégie de communication. Nous sommes en train de travailler plus sur le rapprochement entre les autorités ainsi que les administrés pour la quête de la paix. Et ce rapprochement peut faire face à des entraves. Et parmi ces entraves, ces menaces, il y a notamment des intox et d'autres facteurs liés à la communication. Il y a des manipulateurs qui utilisent certains canaux de communication pour créer des intox afin de créer ces divorces entre la population et les autorités. C'est pourquoi nous avons voulu nous rassurer à travers l'activité d'aujourd'hui que nous la consacrions essentiellement à la communication. Nous avons appelé différentes parties prenantes pour qu'elles viennent identifier les différentes menaces liées à la communication susceptibles d'entraver leurs relations et la mise en œuvre de leurs différents engagements. Et après, nous leur avons demandé d'identifier tous les canaux de communication qui peuvent être utilisés pour renforcer la collaboration entre les administrés et les autorités. Ils ont identifié tous les canaux de communication et après les avoir identifiés, ils ont commencé à valider canal par canal pourvu que ces canaux soient susceptibles de maintenir cette relation entre autorités et population. Et aussi, pourvu que ces canaux soient aussi valables pour le contexte actuel de Beni. Vous savez que Beni est caractérisé par le contexte de l'état de siège où il y a certains canaux de communication qui ne sont pas valables, qui sont interdits notamment par l'ordonnance du président de la République instituant cet état de siège. C'est comme ça que parmi les canaux validés par exemple, ils ont parlé du dialogue qui a été considéré par eux comme le canal par excellence de communication avec les autorités. Ils ont validé les lobbying, le plaidoyer, les différentes conférences avec les autorités, des réunions, des entretiens et bien d'autres canaux de communication. Cependant, parmi les canaux invalidés, ils ont par exemple parlé des sit-ins, ainsi que des marches aussi bien pacifiques que non pacifiques, parce que ils ont tous été conscients que même si ces canaux sont officiels, sont constitutionnels et sont des canaux valables de communication, mais dans le contexte actuel, ce ne sont pas des canaux autorisés. Mais pour l'instant, ils ont dit que certains canaux, nous pouvons les sursoir.
Et pendant ce temps, l'armée, pour sa part, condamnerait la population civile de pouvoir coopérer pour passer les messages des groupes armés qui diffusent même les images ainsi que les informations de leurs attaques. Et de leur part, la population dit que non, c'est l'armée plutôt qui fait le frein des informations fiables et vraies pour qu'elles soient à la une de tout ce qui se passe dans la zone opérationnelle. Comment vous avez cette situation?
Évidemment, le porte-parole de l'armée a démontré, à travers les explications orales et à travers une vidéo très intéressante, qu'il y a certains faits qui se déroulent dans la ville de Beni et la population adhère à certains événements sans savoir d'où ces événements ont été tirés. Et il nous a démontré qu'il y a beaucoup de choses qui sont initiées par les ADF avec la preuve à l'appui et que l'on injecte à travers certains canaux de communication dans la communauté et les gens s'y donnent, certains jeunes s'y donnent à certaines pratiques, notamment marche sans souliers dans la ville, on parle de certaines marches sans savoir qui est l'initiateur alors que c'était initié par ces rebelles-là. Alors, c'était un appel au sens d'analyse et sens critique, analyser les faits, analyser les appels, analyser les messages avant d'adhérer à des appels parce qu'il y en a qui profitent à l'ennemi. Il a démontré que parfois nous nous affichons en des communicateurs de l'ADEF et qui pour la plupart ont toujours vocation à créer des divisions, à monter la population contre les autorités alors que c'est un jeu qui a été monté par l'ennemi. Et ça a été démontré avec des preuves à l'appui dans la séance d'aujourd'hui.
L'effet est accordé. territoire-là, les fausses informations continuent à circuler au sein de la population. Vous pensez ce genre d'activité ici, comment vous allez la pérenniser pour que dans les jours à venir, la population tout entière soit informée?
Oui, la stratégie de pérennisation consiste d'abord à appeler les participants à la séance d'aujourd'hui d'aller en faire large diffusion dans leurs différentes structures. Et nous-mêmes, après l'activité d'aujourd'hui, parce qu'elle réunissait plus les acteurs du niveau urbain, la société civile de la ville, le maire de ville, les conseils des jeunes de la ville, nous comptons la décentraliser, de façon que l'on se rassure que tout le monde est au courant de cela et que dans la prochaine, on ne tombe plus dans les jeux de l'ennemi et que l'on soit responsable de différentes communications et que l'on soit aussi conscient des canaux valables et répondant au contexte actuel par rapport à la communication avec les autorités dans le but ultime de maintenir, de conserver une bonne relation entre les administrés et les autorités pour la quête de la paix et la sécurité en ville de Béni.
Charmant Wanambi, nous vous disons merci.
Je vous remercie, messieurs les journalistes.
C'était là l'invité de Radio Okapi, le chef de programme de l'ONG Paul Institute. Maître Charmant Wandimbi était interviewé à Béni par Marc Marofimbo. Ainsi s'achève cette édition d'information à 18h20. Merci d'avoir écouté infiniment. Merci à Pierrot et la Mégie qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Noël Aluzi Tukamambi.